Africa. Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
Bienvenue dans votre émission Le Journal des Auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur Africa Radio. Aujourd'hui dans le JDA, la lutte contre la maladie d'Ebola en République démocratique du Congo. La maladie continue sa propagation. 12 cas suspects ont été détectés samedi dernier à Goma, à l'est du pays, selon la présidence congolaise. Selon un bulletin du ministère de la Santé en date de jeudi dernier, depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 2713, dont 2619 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1823 décès. Pour en parler, nous aurons en direct depuis Kinshasa Corinne Ndo, qui est directrice du bureau de l'ONG Oxfam. Il y aura également Patrick Omboyo, chercheur en droit public à l'université de Paris-Saclay, pour nous donner votre avis sur le sujet, poser des questions à nos invités. Appelez-nous maintenant au 33 1 55 07 58 00 ou laissez-nous un message WhatsApp au 33 7 66 19 77 69. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Chers amis de JDA, bonjour. Je interviens à propos de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo concernant le nouveau gouvernement. Moi, je pense qu'à l'heure où nous sommes, le problème congolais, c'est Félix Tshisekedi. Félix est le chef de l'État, garant suprême des institutions, mais ce monsieur, jusque-là, n'a jamais compris les attributions d'un chef de l'État. Regardez ce qui se passe en Angola. Lorenzo est issu de la famille politique d'Eduardo Santos. Mais une fois au pouvoir, une fois prêté serment, il a compris qu'il était le garant des institutions, il s'est démarqué. Mais Félix a tout montré, il attend tout de Kabila, sans toutefois comprendre que Kabila est lui-même le problème. Comment voulez-vous un problème résoudre un problème? Moi, je pense que, bref, chers compatriotes, Félix Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Dans le cas contraire, il doit démissionner. Merci beaucoup, Max de la région parisienne.
Bonjour Nadir, bonjour à tous les chers d'Africa Radio, bonjour l'Afrique. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Patrick Talon, le président béninois? Je ne sais pas, franchement, il veut vraiment à tout prix régner en maître dans son pays, hein, parce qu'il a commis des erreurs graves en excluant l'opposition pour ne pas participer aux élections législatives. Non, il ne s'arrête pas là et il continue à menacer encore tout le monde. Excusez-moi. Là, c'est maintenant le tour de Enel Zinsou. Voilà, ils vont sortir un dossier qui n'a aucune raison d'être pour l'exclure encore de toute participation à toute élection. Donc déjà, la présidentielle en 2021, c'est déjà ça qu'il est en train de voir. Il faut déjà que ce monsieur-là puisse revenir, ce n'est pas me battre. Et donc, il faut déjà le mettre des barreaux dans les roues. Bon, on va sortir un dossier de dépassement de fonds de campagne pendant les élections présidentielles perdues. On lui parle de faux usage de fonds, c'est ce qu'il a fourni comme dossier. 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'inéligibilité. Bon, écoutez, c'est pas cette affaire-là. Le Bénin, franchement, qui était une démocratie, parce que ça avait tout changé dans ce pays qui était un modèle pour l'Afrique, c'est vraiment regrettable.
JDA, comment peut-on mourir en fêtant la musique? Comment peut-on mourir si jeune en fêtant la musique? Quel jour? Le jour de la musique ou en France. France qui elle-même a créé cette fête de la musique. On meurt en France en fêtant la fête de la musique, le jour de la fête de la musique. Pour moi, il y a un boulon qui n'est pas bien serré. Il y a un truc qui ne marche pas. C'est pas clair. Il y a un truc qui ne va pas. Comment même les forces de l'ordre peuvent aller intervenir parce que des individus auraient fêté la fête de la musique en France le jour de la musique. Voyez-vous, cette histoire prend, n'est-ce pas, une dimension à laquelle on ne s'attendait pas. Tout le monde en parle, les politiques en parlent. Ça devient, n'est-ce pas, une affaire, n'est-ce pas, nationale. Le président de la République l'a en déplacement, mais il suit ça de très près, pardon. On aurait dû laisser ces jeunes-là fêter la musique tranquillement en France, pays qui a créé cette fête de la musique-là. Tout le monde serait tranquille aujourd'hui. Alors moi, tout ce que je demande, il faudrait que le législateur prenne des lois pour laisser les gens fêter la fête de la musique tranquillement jusqu'à minuit, ce 21, tous les 21, pardon, juin de chaque année. Merci.
Oui, bonjour chers auditeurs de Africa Radio. Presque toutes les télévisions, on n'a pas sur toutes les chaînes de télévision, toutes les radios en parlent. Ça fait des jours, voire des semaines, qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Mamadou Barry a été assassiné à Rouen. Au jour d'aujourd'hui, plus personne n'en parle. Quelle télé, quelle chaîne de télévision en a parlé? Et pendant combien de jours? Pendant combien de temps? À part peut-être Africa Radio qui a saisi ce problème. À part ces associations africaines qui ont saisi ce problème pour en parler sur la radio Africa Radio, j'ai pas entendu une autre radio, j'ai pas entendu d'autres radios en parler. Mamadou Barry n'est-il pas un être humain? Il a laissé une femme et une petite fille de 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, personne ne parle plus de sa mort. Personne ne parle plus de son assassinat. Le jeune Siv, tout le monde en parle. Toutes les chaînes de télévision en parlent. Toutes les radios en parlent.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est incompréhensible, cette précipitation d'Emmanuel Macron, notre président, à vouloir rendre fréquentable des gens que tout le monde maintient en quarantaine. Alors que Mme Merkel retardait sa rencontre avec Donald Trump, on a vu les fastes et les danses de ventre faites par Emmanuel Macron pour rendre Donald Trump fréquentable. Cela lui a permis d'être en partie fréquentable et de faire ce qu'il fait aujourd'hui en détruisant tout sur son passage. Là encore, les Européens, notamment le président de la Commission, a dit ces 4 vérités à Boris Johnson et c'est dans une concurrence, je ne sais avec qui, qu'Emmanuel Macron se précipite pour avoir une rencontre avec Boris Johnson. Le Brexit est en panne. Et il n'est pas sûr pour les gens qui réfléchissent que le Brexit sans accord ait lieu. Pourquoi se précipiter à recevoir Boris Johnson? La concurrence avec des gens qui ne croient pas être en concurrence avec vous est une stupidité. Bonne journée à tous.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, lundi 5 août 2019 dans le JDA, cela fait un peu plus d'un an que la RDC, République démocratique du Congo, fait face à la 10e épidémie d'Ebola, récemment qualifiée d'urgence sanitaire mondiale par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. 12 cas suspects ont été détectés samedi dernier à Goma, dans l'est du pays, selon la présidence congolaise. Pour en parler, nous accueillons d'ici quelques minutes Patrick Mboyo, qui est chercheur en droit public à l'université de Paris-Saclay. Mais avant de lui donner la parole, nous avons en ligne depuis Kinshasa, Corinne Ndo. Corinne Ndo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct depuis Kinshasa. Vous êtes directrice du bureau de l'ONG Oxfam en RDC. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation de la maladie aujourd'hui dans le pays?
Merci bien. Donc, Ebola en RDC en ce moment, c'est une des crises humanitaires les plus graves au monde. Nous avons depuis le 1er août, célébré le premier anniversaire malencontreusement de la déclaration de cette épidémie en RDC avec plus de 2000 cas.
Oui.
Seulement dans les 21 derniers jours, nous avons 131 cas Mais le fait le plus alarmant, c'est que maintenant, nous avons des cas à Goma.
Oui.
Goma, c'est une ville frontalière. Goma, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants. Et à partir de Goma, on peut avoir accès à l'intérieur de la RDC, c'est un sous-continent, mais également accès aux pays limitrophes. Donc, c'est vraiment ce qui est un peu milité en faveur de l'OMS qui a déclaré récemment cette épidémie d'urgence mondiale.
Mmh. Pour vous, la situation est inquiétante? Oui.
La situation est vraiment inquiétante,
oui.
Raison pour laquelle Oxfam, à l'instar des ONG, a décidé de monter à l'échelle. Nous sommes là en phase de contingence. Nous avons atteint des niveaux les plus élevés en termes de réponse humanitaire.
Très bien. Alors justement, de quelle manière Oxfam travaille sur place et comment aidez-vous, en lien certainement avec les autorités congolaises, pour la riposte contre Ebola?
Je vous remercie. En fait, Oxfam, nous faisons partie des ONG qui ont milité dès le début pour un engagement communautaire. Donc, nous articulons essentiellement sur l'engagement communautaire parce qu'un des freins à Ebola, c'est la résistance des communautés.
Oui.
Et cette résistance, c'est impossible de rompre.
Oui.
Eh bien, il ne faut pas oublier également que cette crise se passe dans un contexte très particulier. Vous avez également une insécurité.
Oui.
Cette insécurité qui rend difficile l'accès aux hommes les plus vulnérables et même l'accès aux personnes qui pourraient être des contacts.
Oui.
Ce qui fait que c'est une crise qui est sans précédent.
Très bien. Et est-ce que vous craignez une propagation de la maladie dans d'autres pays? On a vu récemment que le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC pendant quelques heures.
En termes de programmation aux autres pays, nous avons déjà des plans de prévention interpays qui sont déjà en activation. Je ne dirais pas que c'est inéluctable, mais je dis que c'est quelque chose dont il faudrait peut-être déjà commencer à penser sérieusement.
Mmh. Merci beaucoup Corinne Ndo d'être intervenue depuis Kinshasa. Je rappelle que vous êtes la directrice du bureau de l'ONG Oxfam en République démocratique du Congo. Patrick Mboyo, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Nos auditeurs vous connaissent bien, vous intervenez régulièrement dans les émissions d'Africa Radio. Alors vous êtes chercheur en droit public à l'université de Paris-Saclay. Tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont se déroule la riposte face à la maladie Ebola aujourd'hui en RDC?
Merci encore de me convier à ce débat qui pourrait interroger certains sur la présence d'un chercheur en droit public alors que c'est une question de santé. Simplement, il faut préciser que nous sommes face à une crise sanitaire. Il faut bien préciser, comme vient de le décrire la dame qui
travaille pour
Oxfam en République démocratique du Congo, justement. Justement, la place du chercheur, c'est de comprendre aussi la gestion au plan politique, au plan administratif, mais aussi au plan technique d'une situation sanitaire qui représente un danger non seulement pour le Congo, mais aussi pour toute la région de l'Afrique centrale. La gestion aujourd'hui de la crise ne pourrait pas être clairement dite satisfaisante ou pas satisfaisante, parce que nous sommes dans une phase transitionnelle qui est tout à fait dangereuse, une phase transitionnelle dans la mesure où il y avait un ministre de la Santé, en la personne de M. Oli Ilunga, qui a géré cette crise dès les premières heures, et qui est parti, pour des raisons que je vais pouvoir expliquer tout à l'heure, si vous m'en donnez l'opportunité, et qui a été remplacé par un président de la République, il faut le dire clairement.
Oui.
Aujourd'hui, dans la gestion de la crise, c'est le président de la République lui-même qui gère cette crise.
Oui.
Il n'a aucune compétence en matière médicale, il n'a pas la formation nécessaire, il n'a jamais travaillé dans les structures humanitaires, ni sanitaires, ni encore dans une structure gouvernementale avant. Il s'est décidé de prendre en main la gestion d'une crise alors qu'il y avait un ministre qui avait tout mis en place avant. Donc, pour le moment, bien qu'il y ait l'assistance technique d'un monsieur chevronné réputé comme le professeur Jean-Jacques Mouyem de Kanfoum, qui, il faut le dire, a été parmi les découvreurs, ou la personne qui a découvert le
virus,
qui a découvert le virus Ebola en 1976, mais simplement entre découvrir la maladie et avoir fait des recherches là-dessus, et piloter la stratégie de réponse à une épidémie face contre cette maladie, il y a un pas et il faut savoir faire ses preuves derrière. Je ne doute pas des compétences du professeur Jean-Jacques Bouyembe-Tanfoum,
sauf
que ce n'est pas lui qui répond aujourd'hui de la gestion de la crise d'Ebola. Donc pour répondre à votre question, c'est difficile à dire si la gestion est satisfaisante ou pas. Il faut encore voir dans les jours à venir comment ça va évoluer.
Mais pour revenir sur cette décision, est-ce que pour vous elle soulève le voile sur la manière dont l'épidémie est gérée en RDC aujourd'hui? Parce que dans sa lettre de démission, Oli Ilunga avait parlé de cacophonie.
Oui, il a évoqué justement la cacophonie qui peut être dangereuse pour la riposte. Il parle même d'une cacophonie préjudiciable à la riposte. Dans son courrier, moi j'ai retenu trois éléments. Premièrement, il décrit la gestion politique de la crise actuelle par le président tel qu'il veut la mener, parce que lui, il avait établi une gestion de crise, une gestion politique de la crise par l'affirmation du leadership de l'État. C'est-à-dire toutes les ONG qui sont là doivent coordonner, répondre, être redevables financièrement et matériellement, mais aussi au plan administratif, de leur action vis-à-vis du gouvernement. Parce qu'il ne s'agit pas d'une crise humanitaire, il s'agit d'une crise sanitaire qui relève de ce qu'on appelle la santé publique. Or, la santé publique relève de l'État.
Oui,
par contre, une crise humanitaire, c'est la crise qui nécessite... pour laquelle on n'a pas besoin d'une coordination étatique, parce qu'il s'agit de sauver l'être humain. En République démocratique du Congo, il y a des interventions humanitaires depuis des années, ça n'a jamais contribué au développement du pays, parce que quand une ONG arrive, elle s'occupe des personnes ciblées précises. Elle ne participe pas à l'économie globale. Or, dans une crise sanitaire, il faut travailler de manière globale. Tout le monde doit être dans le même sac pour pouvoir travailler pour les mêmes personnes, aller vers les mêmes objectifs. Mmh. Et c'est ce que Oli Ilunga a voulu préserver. Deuxièmement, il a voulu préserver la méthode stratégique de coordination de la riposte, par une centralisation et une redevabilité commune. Et troisièmement, il a posé le problème de l'outil médical ou du vaccin adapté à la maladie, parce que selon lui, il y a un vaccin qui sert déjà actuellement à vacciner, mais aussi à prémunir contre la maladie, c'est-à-dire guérir et prémunir contre la maladie en même temps. Or, on veut proposer un vaccin qui...
Un deuxième vaccin
qui prouve de Johnson & Johnson, le laboratoire américain, qui vient d'abord guérir et puis plusieurs jours après sert à pouvoir développer la défense immunitaire. Donc c'est problématique à ce niveau face à une crise qui devient dangereuse et qui risque de se propager dans toute la région.
Restez avec nous, hein, Patrick Mboyo. Nous avons des auditeurs qui interviennent. Nous avons en ligne Marcus. Marcus, bonjour.
Oui, bonjour Nadie, bonjour les invités, bonjour les auditeurs.
Bonjour Marcus, on vous écoute, bienvenue.
Oui, je rebondis à ce que vient de dire le professeur Boyo.
Oui, Patrick.
Il a parlé de la découverte de ce virus en 1976.
Oui.
Mais à la question que je veux vous lui poser, il doit savoir qu'est-ce que c'est que notre langue.
Pardon ?
Qu'est-ce que c'est ? Là, il faudrait qu'ils nous apportent des enseignements à cela. Parce que, avec certaines connaissances, certains documents qui ont été diffusés en 1999, effectivement, l'un des premiers cas de ce virus Ebola est apparu à Marbourg, en Allemagne, en 1967. Donc, la question qui est posée, il y a un médecin américain qui a fait des recherches et qui a laissé un ouvrage qui dit « La guerre des virus, SIDA, Ebola, émergence naturelle ou manipulation humaine, accident ou intention ». Donc, à ce que je porte toujours dans ce questionnement, nous avons trois grandes forêts sur le globe, qui est la forêt amazonienne, la forêt du Pacifique, indonésienne.
Où voulez-vous en venir, Marcus ? Essayez d'être concis, parce que nous avons peu de temps et il y a des auditeurs aussi, d'autres auditeurs qui souhaitent réagir.
Oui, la question est de savoir, Ebola, d'autant plus que le cas d'Ebola, il y a eu une première vague de cette maladie qui a ravagé des populations, auxquelles l'ONG et l'OMS a apporté des éléments pour permettre de soigner des gens. On a eu le cas de la Guinée. Comment est-ce possible encore que cette maladie revienne sur le continent et qu'on n'arrive même pas à trouver les voies et moyens de porter la guérison à tout le monde. Surtout que le Congo connaît des régions où il y a une confrontation pour des richesses.
D'accord.
Et encore, ce sont des régions difficiles pour l'État.
D'accord.
Donc, il y a plein de questions à se poser, et je suis toujours dans le...
Ce que vous dites, c'est comment expliquer que les autorités ont réussi à vaincre les précédentes phases de l'épidémie d'Ebola, alors qu'aujourd'hui, elle semble rencontrer des difficultés. C'est ce que vous voulez dire.
Mais d'autant plus, parce que si on a apporté une première épreuve de porter des soins à des gens.
Oui.
Donc, les gens connaissent les règles et les moyens d'éviter cette maladie. Et
d'accord.
Comment cette maladie revient sur ce même... dans cette même région et qu'encore ça touche des régions où il y a la guerre, il y a plus ou moins des conflits communautaires, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
D'accord.
Donc à la question qui est posée, est-ce que Ebola est une maladie naturelle ou est-ce une maladie fabriquée de la main de l'homme?
D'accord, nous n'avons pas la réponse à votre question. Donc, mais merci beaucoup Marcus pour votre intervention. Nous avons en ligne Mopondji, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Ouais, moi en tant que politique, ce que je voulais dire, si la maladie Ebola ces derniers temps n'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de la politique.
D'accord.
C'est ça, c'est les politiciens.
D'accord.
Si les politiciens, ils avaient la bonne volonté de faire éradiquer l'Ebola, comme l'Ebola du passé,
ouais.
pourrait être parti. Mais les politiciens, ils prennent l'argent d'Ebola. En fait, j'accuse personne, mais mal gestion des politiciens, ce qui fait que l'Ebola ne finisse pas. C'est ça notre problème.
D'accord.
Si nous voulons que l'Ebola soit arrêté à côté de Kivu, il faut que nous soyons ensemble, les politiciens, restons unis pour faire avancer la République démocratique du Congo. Comme il y a des divisions, il y a des gens qui ne veulent pas que le Congo avance, c'est parce que là, l'Ebola est toujours là.
D'accord.
Nous demandons aux Congolais, restons unis avec des gens de bonne volonté comme nous.
D'accord.
Si nous sommes là, l'Ebola va partir. Mais avec ces gens-là qui ont détruit le Congo, qui ont mis le Congo par terre, l'Ebola ne finira jamais parce qu'ils prennent l'argent pour des recherches pour finir avec Ebola. Ils mettent ça dans l'air.
Très bien. Merci.
L'Ebola est toujours là. C'est pour cela que nous disons que restons ensemble, peuple congolais. Nous allons vaincre Ebola.
Très bien. Merci, Mopondji, pour votre intervention. Alors, Patrick Mboyo, est-ce que, selon vous, il y a aussi ce qui pose problème, c'est aussi la question de la gestion, en fait, de la maladie. Est-ce que, à votre avis, c'est aussi une des causes qui pourrait expliquer que la maladie n'est pas encore éradiquée à l'heure où nous parlons?
Moi, j'ai retenu dans le travail qu'a réalisé Oli Lunga pendant ces temps, je ne suis pas en train de lui jeter de fleurs, hein, mais j'observe simplement ce qui a marché et bien sûr ce qui n'a pas marché. J'ai observé qu'il a d'abord établi un plan de communication qui était plus ou moins bien établi, avec un bulletin quotidien qui informait du nombre total des maladies, dont les cas suspects, ainsi que les cas confirmés, du nombre des décès, mais aussi du nombre des personnes guéries. Ça, on l'avait quotidiennement, avec un tableau bien établi, un tableau Excel, qui était vraiment assez intéressante, ça, il faut le reconnaître. Il y a aussi le recours aux canaux de communication locaux, les chefs traditionnels, les chefs spirituels, les leaders communautaires, comme c'est évoqué par la dame de l'Oxfam tout à l'heure, mais aussi au plan organisationnel, j'observe qu'il y a eu une structure de riposte qui a été mise en place dès le début. Alors, cette structure avait eu une présence active sur le terrain dès les premières heures, mais le seul bémol, c'est que les moyens ont été peu adaptés au risque, et cela a entraîné la mort de certains agents qui luttaient contre la maladie, mais aussi il y a eu une grande légèreté dans la sécurisation des opérations, parce que nous sommes quand même dans une zone conflictuelle où les groupes armés sévissent depuis des décennies, envoyer des gens lutter contre la maladie dans ces contextes sans les sécuriser. Ils sont d'abord exposés à la méfiance des populations qui pensent qu'il y a manipulation humaine. Et là, je ouvre la parenthèse pour dire que personne aujourd'hui n'est capable de dire s'il y a manipulation humaine ou pas sur cette maladie.
Bien sûr, personne,
et voilà, personne n'est capable de le dire à ce jour. Alors, envoyer des gens dans ces contextes face à une population qui croit facilement des raccourcis de pensée comme ce qui vient d'être dit sur la responsabilité des politiques, alors que l'action politique n'a pratiquement rien sur la résurgence d'une maladie. On voit en France apparaître des maladies qui avaient disparu
effectivement,
depuis
oui,
qui reviennent. C'est pas à cause des politiciens ou pas.
Oui,
c'est simplement
oui.
une question de santé publique pour pouvoir surveiller l'évolution des petites pathologies qui deviennent avec le temps et les grands nombres des patients des épidémies à fort danger. Mais aussi, il y a l'opulence des équipes sur le terrain. Ces équipes ont été rapidement dotées avec des nouvelles voitures, des équipements ultra modernes et des très bons salaires. Alors que la population à côté qui souffre vit dans une misère incroyable et la population a cru à un moment donné que ces gens se faisaient de l'argent sur leur malheur. C'était aussi ça, ce déficit. Il y a une communication adaptée pour l'étranger et pour des personnes érudites, mais une communication adaptée pour la population, mais aussi se mettre leurs conditions matérielles.
Est-ce qu'il y avait aussi une meilleure prévention qu'aujourd'hui, selon vous ?
Je ne pense pas, parce que la prévention marche avec l'information. Le problème, c'est que quand on termine une phase de maladie, d'épidémie, on ne parle plus de l'épidémie derrière. Du coup, les personnes deviennent de plus en plus négligentes dans la préparation des aliments, dans la prise des aliments qu'il faut manger, parce que ces populations paysannes vivent de quoi ? De la chasse. De l'agriculture. Alors, une personne qui trouve un animal mort, ne sait pas que voilà, il faut éviter de manger. Pendant cette période, on se méfie des animaux, mais pendant de manger de la viande, de la chair animale. Pendant qu'il y a une période accalmie, qu'on parle plus d'Ebola, tout le monde serait mis à manger de la viande et dans n'importe quelle condition. Donc, ce sont ces genres de choses qu'il faut garder dans la population, une conscientisation, un problème de veille aussi. Et c'est pour cela qu'on parle d'une problématique de santé publique qui doit être réellement prise en compte dans la lutte contre Ebola, mais aussi pour la préservation d'autres épidémies qui pourraient venir à l'avenir.
Nous avons en ligne William. William, bonjour.
On a dit bonjour au directeur d'Afrique Radio et bonjour à Patrick Mboyo et à notre invité à Kinshasa.
Bonjour, voilà. Allez-y.
Oui, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec l'analyse de Patrick Mboyo.
Oui.
Déjà, quand il dit que Félix Tshisekedi il n'a aucune connaissance, il n'a aucune compétence sur le plan médicinal pour qu'il puisse trouver des solutions.
D'accord.
Nadir, moi, je vous avais dit sur cette radio, je soutiens le ministre de la Santé pour sa démission.
Démissionnaire, voilà. Vous l'avez
dit clairement. Parce qu'il a toutes ses raisons et c'est valable, c'est incontestable. Parce qu'un ministre de la Santé qui a des compétences, qui connaît son boulot, qu'il a appris, et on lui prend la responsabilité d'une situation comme Ebola, c'est pas une mince affaire. Et du coup, il se sent comment ? Désavoué. C'est normal qu'il prenne sa distance.
Oui.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Pour vous, le président de la République ne doit pas s'impliquer directement dans la gestion de la riposte à une maladie, quoi.
Ça n'a aucune raison d'être, Nadir, parce que déjà, franchement, pour moi, c'est de la comédie qu'ils ont joué, et c'est un désordre bien organisé. Parce que Félix Tshisekedi, on lui dit de faire quelque chose, il accepte de le faire. Et je vous avais dit sur cette radio, s'il avait dit ça, ou il avait réfléchi dans son cercle avec ses amis, le fait que Ebola soit déclaré comme une urgence de santé mondiale par l'OMS, ils ont dormi, ils se réveillent le matin, bon écoutez, maintenant on nous connaît partout dans le monde, il faut qu'on prenne une décision pour qu'on pense que nous on est en train de travailler, mais non, il fallait laisser Oli Ilunga continuer avec sa lutte, c'est comme ça. Moi j'ai toujours dit, Ebola, personne là où ils sont tous là qui a la solution.
Oui.
Le gros problème là-bas, il y a eu une erreur grave pour tout le monde là-bas, du côté de la sensibilisation.
Oui.
Les populations ne sont pas sensibilisées.
D'accord.
Et il y a eu des hommes d'église qui ont inculqué des mauvais enseignements à ces populations.
Des hommes d'église,
ils ont parlé d'Ebola, ils ont diabolisé Ebola, ils ont dit que tu me l'as dit qu'il avait de l'Occident, et voilà. Mais ce n'est pas comme ça.
Oh, ça, c'est vous qui le dites, nous avons aucun
moyen de bien sûr, ils l'ont dit. Ils l'ont
vérifié, oui.
Moi je vous dis c'est ça, effectivement.
D'accord.
Ça passe pas sur des grands médias, mais c'est ça. Ils disent ça, ces pasteurs-là. Ils disent à leurs fidèles dans leurs églises de ne pas écouter les gens qui viennent. Ils viennent pour vous tuer. Mais c'est pas eux qui tuent le plus. Donc pour moi, Félix Tshisekedi a fait une grave erreur de prendre les choses en main comme il a pensé et laisser Oli Ilunga partir comme ça. Il fallait que ça soit une compétence qui se débrouille. Peut-être il devrait avoir une bonne solution. Donc moi, je suis d'accord avec Patrick Mboyo de tout ce qu'ils ont tenté de dire.
Et
effectivement, il faudrait que les gens prennent conscience là-bas.
Très bien. Merci, William, pour votre intervention. Nous avons en ligne Abdel Wassi. Abdel Wassi, bonjour.
Oui, bonjour, M. Nadi. Comment allez-vous ?
Ça va, merci. Et vous ?
Ok, on va aller rapide. Ça va très bien. Nous avons un beau soleil chez nous ici à Montréal.
Bonjour. Et on salue tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis le Canada.
Oui, je salue votre invité, mais je, par rapport à certaines choses qu'il dit,
oui.
Je crois qu'il faut qu'il implique les politiques, là. Parce que quand il dit qu'il n'y a pas la même politique dedans, il y a vraiment la même politique.
D'accord.
Parce que la sensibilisation doit rester permanente.
Oui.
On connaît les habitudes de ces populations-là.
Oui.
Ce n'est pas parce que la population oublie que les politiques vont s'asseoir.
Oui.
C'est eux qui doivent garder une sensibilisation permanente pour que on sache que c'est un problème de santé publique qu'on doit traiter à tout moment.
D'accord.
Donc, la politique, c'est son implication est là. On a vu un président, les gens pensent qu'il faut dire, il faut croiser les bras, que Dieu va tout faire, Dieu va tout faire. C'est pas Dieu qui va faire,
oui,
tout, comme
oui,
on dit.
Oui.
Les pasteurs sont les sensibilisés aussi là.
D'accord.
C'est un problème de santé publique, ça veut dire qu'il y a il y a un processus qui doit être en place, qui doit être suivi au jour le jour.
D'accord.
Et on sait que pendant que, en Guinée, il y avait eu ce risque-là aussi, et puis on a même eu des infirmières qu'on a transportées rapidement aux États-Unis,
oui,
pour,
oui,
les soigner.
D'accord.
Et étant donné qu'on a connu qu'il y a un souci, ça doit être quelque chose qui est de veille, qui est en place pour pouvoir parer à tout moment, au lieu qu'on crie chaque fois que Ebola, et puis la ville de Goma va être isolée, le Congo va être isolé.
D'accord.
Une maladie qu'on a déjà traitée une fois, ça veut dire qu'on a le remède pour ça.
D'accord.
Pourquoi ce n'est pas fait en sorte que ça soit toujours permanent et que les gens ont accès à ça pour soigner?
Très bien.
On a dit la polémique, quand ça touche d'autres personnes, ça a touché d'autres populations ailleurs, la solution s'est trouvée et puis on n'en parle plus aujourd'hui.
D'accord.
Donc ce n'est pas de ces jours, si depuis 70 on parle d'Ebola, il faut qu'en 2019-2020, on en parle, que l'Ebola soit maîtrisé.
D'accord.
Il faut vraiment que les politiques prennent ça comme un problème de veille permanente, c'est eux qui doivent sensibiliser la population. Et surtout les habitudes alimentaires qu'on connaît dans la zone, ils doivent mettre dans des règles, des interdictions, pour faire des contrôles, pour que ça soit, pour qu'on parle de la chose. C'est comme ça, on ne baisse pas les bras devant une population qui est analphabète, parce qu'on dit, si vous pensez que l'éducation est chère, essayez l'ignorance. C'est les résultats de l'ignorance qui se passe en ce moment-là.
Très, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Abdel pour votre intervention et merci d'avoir appelé depuis Montréal. Patrick Mboyo, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a qualifié la maladie d'urgence sanitaire mondiale. Vous pensez qu'il faut une aide internationale pour tenter d'endiguer la maladie aujourd'hui? Elle est nécessaire selon vous?
Oui. Évidemment, cette aide est pas seulement nécessaire, mais elle est indispensable parce que la situation économique de la République démocratique du Congo n'est pas viable pour pouvoir, n'est pas assez forte pour pouvoir tenir face à une telle lutte, puisqu'il faut financer les agents sur le terrain, leur,
ouais,
acheter des matériels, mais aussi prendre en charge les décès. Les décès de ces épidémies ne peuvent pas être enterrés dans des cimetières communs, dans des villages, puisque dans,
ouais,
les villages, les cimetières sont en général juste derrière les maisons des gens. Or, un cadavre d'une personne décédée d'Ebola représente un danger de santé publique, puisque déjà ce cadavre porte en lui-même les germes, et ces,
oui,
germes peuvent,
oui,
être,
oui,
peuvent se développer de plusieurs manières. C'est-à-dire des germes pathologiques, bien entendu. Donc, l'aide de l'OMS est tout à fait indispensable,
oui,
pas dans le cadre humanitaire, dans le cadre d'une urgence sanitaire internationale. Et,
oui,
sur ce,
oui,
point, ce que moi j'observe de paradoxal, c'est que l'OMS a déclaré Ebola urgence sanitaire mondiale, mais le gouvernement de la RDC, jusqu'aujourd'hui, n'a pas déclaré l'Ebola comme une urgence au plan national. La RDC,
d'accord,
devait être aujourd'hui normalement en état d'urgence contre cette maladie qui est cette épidémie, cette dixième, je précise, qui,
oui,
est la plus,
oui,
meurtrière depuis que l'épidémie est apparue,
en
RDC.
Oui.
Pour toute l'Afrique de l'Ouest, la région de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, tous ces pays-là, Libéria, Sierra Leone qui étaient confrontés, c'est, on a eu 11 000 morts.
Oui.
Mais rien que pour la RDC aujourd'hui, nous sommes à plus de 1800 décès,
oui,
sur 2600 cas enregistrés, soit 70% des décès.
D'accord.
Si on continue à cette allure, rien que la RDC, à elle seule, risque de compter plus de nombre de morts que la dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui a été meurtrière. Et je précise pour dire à votre dernier auditeur que je ne dédouane pas la responsabilité des politiques dans la prévention de l'épidémie, mais plutôt dans l'apparition de la maladie.
Oui.
La maladie peut apparaître à tout moment, ce n'est pas la responsabilité des politiques, mais,
oui,
la prévention et de la responsabilité des politiques. Et j'ai insisté de la veille sanitaire, de l'équipement adapté aux personnes qui luttent contre la maladie, mais aussi de la sensibilisation des populations dans les périodes où il n'y a pas épidémie, pour que les populations ne reviennent pas nier, pas qu'il y ait relâchement sur les habitudes, afin de pouvoir éviter de voir l'apparition d'autres épidémies plus tard. Mais bien sûr, la responsabilité des politiques sur l'apparition de la maladie, elle est tout à fait quasi nulle.
Très bien. José, nous avons en ligne José, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, José.
Ouais, je voulais poser une question à votre invité.
Oui.
Parce que c'est bizarre comme Ebola, là, ça contamine que les gens paisibles en ville qui vont à leurs besoins pour travailler, pour chercher de quoi vivre, tandis que des rebelles qui viennent menacer, tuer la population, menacer des gens qui traitent de malades et tout ça, ils sont jamais, jamais contaminés des rebelles. Hein, ils sont dans la forêt, tandis qu'ils ont dit que bon.
Ça, on n'en sait rien. On n'a aucune information à ce sujet. Enfin,
Oui. Bah, parce qu'on a dit, que Ebola c'était des singes, des gorilles qui contaminaient la population. Mais eux, ils sont jamais. On n'a jamais entendu que voilà, la rébellion telle de rebelles, ils sont contaminés. On les a vus morts et tout ça. Mais, rien.
D'accord. Mais merci José pour votre intervention. Très rapidement, Godet. Bonjour. Allô, nous avons perdu Godet, alors nous retrouvons notre invité Patrick Mboyo. Alors, il y a la semaine dernière, le Rwanda a fermé sa frontière avec la RDC pendant quelques heures et ça n'avait pas plu hein, aux autorités congolaises. Vous pensez que le Rwanda a eu raison de fermer sa frontière pendant quelques heures ?
Que le Rwanda ait eu raison ou pas, ça relève de la souveraineté de l'État du Rwanda.
Oui.
La préservation de la santé des Rwandais et de la compétence du gouvernement rwandais, tout comme la préservation de la santé des Congolais et de la compétence du gouvernement congolais. Si le Rwanda décide de fermer ses frontières, on ne peut pas le lui reprocher. À partir du moment où, moi j'ai vu, c'était aussi pour mettre en place des installations de nettoyage de mains avec de l'eau chlorée, c'était assez intéressant. Et sur ce point, j'aimerais aussi dénoncer un petit peu l'amateurisme avec lequel on voit les dirigeants congolais gérer un peu cette crise. Nadir Bénal, je disais tout à l'heure qu'il y a les équipes sur le terrain sont équipées matériellement de manière opulente.
Oui.
Opulente, c'est-à-dire au plan des véhicules, au plan de leurs habitations, leur salaire. Mais les matériels pour être la population n'est pas adaptée. Regardez les installations de lavage de mains avec de l'eau chlorée.
D'accord.
C'est assez rudimentaire du côté congolais par rapport à celles qui sont installées du côté rwandais de la frontière. On se trouve sur deux continents différents alors qu'on
Très rapidement, Patrick, hein, très rapidement, nous arrivons.
Et moi, j'aimerais simplement attirer pour la dernière fois l'attention des populations à ce qu'elles puissent savoir qu'on ne guérit d'Ebola que lorsqu'on se fait soigner. N'écoutez pas les pasteurs et les autres évangéliques qui disent n'allez pas aux hôpitaux, venez que Dieu va vous guérir. Et derrière, ils prennent de l'argent de la population par des offrandes et des dîmes, allez vous faire soigner, allez vous faire dépister, même si vous avez un moindre doute, allez-y, ça relève de la vie, de votre propre survie, mais aussi de la survie de toute la population.
Merci beaucoup Patrick Mboyo d'avoir participé à cette émission et par ailleurs, je signale à nos auditeurs que vous organisez le 6 septembre prochain un colloque à l'université d'Evry Val-d'Essonne, intitulé « Les gilets jaunes au prisme du droit hein, » parce que vous vous intéressez bien sûr à l'actualité congolaise, mais également à l'actualité française. Cela se passera de 14h à 18h. Merci aux auditeurs pour vos appels. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des auditeurs sur Africa Radio.